Chapitre 3. Un jour solennel pour nous, c'était la fête de Sainte-Eutrope que célébraient les forgerons du village. Les braves gens, après avoir orné et enguirlandé leurs bâtiments de travail et le gros marteau qui chômait, dressaient une succession de tables et festoyaient avec parents et amis. Les ménagères, rouges et triomphantes, apportaient chacune sur leur table respective la soupe aux choux et aux pains, mitonnée, pleine d'œil, vraiment exquise. Puis, le bouilli appétissant, la fricassée de poulet qui était leur triomphe, et le gigot cuit à point. La crème traditionnelle faite avec amour et dégustée avec recueillement venait après la salade, à la crème. Ah, et à quelle crème! Le tout était arrosé de cidre mousseux. Ce festin admirable se terminait par un excellent dessert que l'on grignotait en écoutant les chansons réclamées par tous aux virtuoses du village. Tantôt c'était une romance plaintive, tantôt un chant joyeux accueilli par des tonnerres de rire. Il y en avait une qui nous ravissait, la Boissier, refrain. Il est pourtant temps, ma mère, il est pourtant temps de me marier, mariez-moi donc. Premier couplet. Ma fille, nous n'avons pas l'argent. Ma mère, nous avons notre jument, vendez-la donc, mariez-moi donc. Refrain, il est pourtant temps, etc. Deuxième couplet. Ma fille, nous n'avons pas de maison. Ma mère, j'en la sous au cochon. Arrangez-la donc, mariez-moi donc. Il est pourtant temps, etc. Troisième couplet. Ma fille, nous n'avons pas de mari. Ma mère, j'avons le fils à Jean-Louis. Prenez-le donc, mariez-moi donc. Refrain, il est pourtant temps, etc. Chanté par la fille de notre menuisier, Simplicie le Cornet, blonde sentimentale qui modulait cela d'un accent nasillard et d'une voix aiguë, ce « pourtant temps », comme nous l'appelions, était devenu inséparable de nos joies rustiques. Que de fois nous l'avons redit, et toujours avec de nouveaux rires, avec un plaisir enfantin, ravivé par nos souvenirs heureux. La chanson de Sainte-Eutrope terminait cette séance musicale. Toute l'assistance se joignait au chanteur pour le refrain, mugi par une cinquantaine de poumons vigoureux, et par autant de voix aigres, appartenant à la partie féminine de l'assistance. Le violonneux se levait alors, en homme gonflé de son importance et pénétré de sa dignité, redressant sa bosse, car il était fait comme un sac de noix. Il faisait retentir les airs de son impossible, et alors, suivi des danseurs et des danseuses, il s'installait devant la forge et faisait sauter la jeunesse. On était infatigable à ce trémoussé. Les galons, entre autres, étaient de vrais steeplechase. Et le violonneux en tête, l'on parcourait ventre à terre un kilomètre sans s'arrêter. Invités cordialement par les braves ouvriers, tous parents et amis entre eux, nous allions, avec la permission de ma mère, qui favorisait ses amusements naïfs, partager leur fête. L'on riait de tout son cœur en parcourant la grande route, précédé par le musicien qui bondissait en avant, comme une balle élastique. 42 contredanses de suite, voilà le bilan de l'une de ces fêtes primitives. Ma sœur aînée y usa une année 2 paires de chaussures. Il va sans dire que le parc était sillonné par les galopeurs, conduits par l'infatigable violonneux. Ma bonne mère faisait installer dans la cour des brocs de cidre et distribuait des gâteaux et des rafraîchissements, absorbés avec enthousiasme et reconnaissance. Il y avait des danseurs émérites dans le nombre. Ils se plaisaient à montrer leur science, les uns par une foule de petits pas, de glissés, d'entrechats, les autres par des pirouettes, à la suite desquelles ils frappaient la terre de leurs talons ferrés. À ce plaisir annuel se joignait pour moi celui de l'équitation. Ma mère, dans sa bonté pour Gaga, avait acheté un bel âne que je nommais Rapide, que j'habituais vite à m'obéir en le bourrant d'avoine. Il ne connut bientôt plus d'autre allure que le galop. Leste comme un chat, j'étais en un clin d'œil sur le bas de mon bucéphale, qui partait ventre à terre. Ses habitudes excentriques occasionnèrent des chutes à mes sœurs lorsqu'elles voulurent se promener sur son dos, car voulant monter posément, elles dégringolaient avant d'avoir pu être installées sur le bas. Je riais sous cap, en entendant leurs doléances à ce sujet. À mon sens, on devait aller vite et prévoir le départ du quadrupède assez à temps pour ne pas tomber. Mon excellente maman se plaisait à organiser parfois, pour les vacances de mon cousin Germain Voldemar, élevé avec moi comme un frère, des parties d'âne au loin. Ces jours-là, les cadichons de toutes les fermes étaient mis en réquisition non seulement pour Voldemar, mais aussi pour nos compagnons de jeu, Célestine et André. Le garde nous accompagnait avec un cinquième âne, portant des paniers de provisions, car on allait déjeuner dans la forêt voisine, et l'on juge si l'on se plaisait à charger notre porteur de choses succulentes, savourées sur l'herbe, avec des cris de joie. Ce jour-là, je me plaisais à orner mon cher rapide. J'étais fort coquette pour lui. Je lui mettais des colliers innombrables, de grosses perles luisantes, de toutes les couleurs. Ma mère me les fournissait avec une bonté, une générosité inépuisable. Les bonnes gens écarquillaient les yeux en voyant passer cette étrange et bruyante procession précédée de rapides, dont les 12 à 13 colliers produisaient un cliquetis superbe. L'année de la visite faite par Louis-Philippe à la Trappe, nous passâmes dans un village non loin de là, et l'on crut bonnement que c'était la cour qui arrivait chez les révérends pères, et où je fus prise pour Madame Adélaïde, sœur du roi, grâce aux ornements de mon âne. Je ne me contentais pas de monter rapide. Je l'attelai à une petite voiture qui avait servi autrefois à promener mon grand-père d'Aguesseau. Ma bonne mère m'avait donné cette voiture, et je faisais des tournées dans le parc avec mon cousin, lorsqu'il était là en vacances, et avec mes petits compagnons de jeu. Entraîné par mon penchant pour les allures précipitées, je me plaisais à descendre les côtes au triple galop, tant et si bien qu'il m'arriva un jour, en haut du raidillon Ségur, de tomber en voulant ramasser les guides après avoir mis mon coursier au grand trot. Je sentis ses petits fers piétiner sur moi, puis les 4 roues de la voiture passaient sur mes jambes et sur ma poitrine. En effleurant mon visage, je me levai péniblement, tout étourdi et tout écorché, tandis que la voiture descendait la côte à toute vitesse, emportant les 3 enfants qui avaient les bras au ciel et les yeux hors de la quête. La barrière arrêta à l'élan impétueux de rapide, et nous en fûmes quittes pour la peur. Je rentrai en pleurnichant, et ma bonne mère me soigna de telle façon que je fus vite guérie. Comme cet accident, la tortue, puis l'écureuil, furent dans le livre de ma mère, les malheurs de Sophie, les réminiscences de ma jeunesse. Ma tortue faisait mes délices à Paris. Logée dans une caisse, elle vaguait, parfois, sur le tapis de ma chambre, que j'avais soin de joncher de salade, malgré les cris de ma bonne, afin de nourrir ma chère petite bête. L'écureuil était normand. Il me fuyait, car je lui faisais sans cesse des niches, mais il aimait fort ma bonne qui le soignait à merveille. Il errait en liberté dans la nurserie, affectionnant les grands bonnets cauchois d'Adèle, où il allait se blottir et sommeiller. Parfois, il escaladait audacieusement le dos de ma bonne et, s'installant avec confiance sur son cou, tandis qu'elle était penchée vers son ouvrage, il relevait coquettement sa queue en panache et savourait une noisette. Il y avait des jours où cette confiance dégénérait en familiarité excessive, car ma bonne sentait de petites gouttes d'un liquide inutile à nommer couler dans son dos. Elle grondait et chassait le coupable, qui détalait avec insouciance, sûr d'avance de rentrer en grâce, à la moindre gentillesse qu'il daignerait faire. Une fois, ayant voulu le prendre dans sa cage, je fus outrageusement mordu au doigt par le petit coquin. Mon père accourut à mes cris, saisit le criminel, et le tint suspendu par la queue, le laissant gigoter avec fureur dans le vide pour le punir de sa cruauté. Ô amour de la vengeance ! Le voir dans cette position précaire et humiliante me consola à demi. Je l'aimais malgré cela, et je pleurai amèrement quand il se sauva par une fenêtre ouverte, étourdiment. Il s'enfuit dans les bois. Me voyant ma désolation, on tâcha de le rattraper. On entrevit le vagabond, leste et gai, paraissant tenté par les friandises qui lui étaient offertes comme appât. Hélas, l'ingrat leur préféra la liberté, et sa fin est restée obscure.